Chapitre 10. Deux années se sont écoulées. Vixen est encore assise auprès du feu, avec le même Argus blotti à ses pieds. Mais la scène a changé, sinon les personnages. Vixen est dans un spacieux salon de Brighton, une grande salle commune avec de larges fenêtres ayant vue sur la mer. Miss McCroke est là aussi, debout devant une des fenêtres, relevant une des mailles de son tricot, tandis que Mistress Tempest, allant lentement de ci de là sur un tapis de Bruxelles dont la chambre est garnie, s'arrête de temps à autre pour regarder les rayons embrasés du soleil couchant. Ces deux années avaient changé Violette. La svelte jeune fille était presque devenue une femme admirablement faite. Un sculpteur eût adoré en elle son idéal réalisé. Un peintre eût été ravi de l'éclat et de la splendeur de son teint. Elle était belle, mais de cette beauté qui ne séduit pas toujours le commun des mortels, et que les femmes en général n'apprécient guère. Les jolies petites femmes mignonnes trouvaient Miss Tempest trop imposante. « Elle est très belle, vous savez, c'est évident, » disait-elle, avec une nuance de dédain railleur dans leur admiration affectée. Quelle taille superbe, mais vraiment de proportions colossales. Il faudrait la peindre à fresque au-dessus d'une haute corniche. Cela ferait une incomparable automne, une Cérès, une allégorie de l'abondance ou quelque chose dans ce goût-là, avec une corne bourrée de fruits entre les bras, mais un peu massive pour un salon, n'est-ce pas ? Les femmes aux cheveux blonds tirant sur l'ambre, dont la coquetterie avait recours à divers produits pour obtenir cette nuance, critiquait l'or trop caractérisé de la chevelure de Violette. Cet or-là tirait trop sur le rouge, cette couleur était trop naturelle pour être distinguée. Elle critiquait aussi le teint d'un blanc crémeux, légèrement poudré de petites taches de rousseur, semblable à celle que laisse le soleil sur les fruits qu'il a le plus tendrement caressés. En somme, il n'était pas un des avantages de Miss Tempest qui ne trouva des détracteurs parmi ses prétendus admirateurs. Mais quand, montée sur son joli cheval bai, elle suivait la route royale, les étrangers se retournaient pour la regarder. Et lorsqu'elle entrait dans un salon, l'éclat de sa beauté faisait pâlir et rejeter dans l'ombre celle des autres femmes. La rose rouge est peut-être une fleur vulgaire, mais elle n'en est pas moins la reine des jardins. Mais n'allez pas croire au moins que Vixen fût une géante. Non, grande et forte en proportion, mais sans exagération. Elle avait les épaules larges, mais finement modelées, les bras pleins et un peu musclés, les mains longues, mais d'un dessin exquis. Le pied en harmonie avec les mains, long aussi, mais étroit et cambré comme celui d'un arabe, et tous les mouvements d'une grâce instinctive et d'une dignité sans apprêt. Elle portait haut la tête, et c'en était assez pour qu'on l'accusât d'orgueil. « Je pense que nous partirons avant Noël, » dit Mrs. Tempest, en continuant une conversation qui durait depuis une demi-heure, sans trop d'animation. « Je suis prête, maman. » répondit Vixen avec soumission. Cela nous rappellera notre chagrin, mais il faut bien qu'un jour ou l'autre nous retournions là-bas. Mais ne désirez-vous pas revoir cette chère et vieille demeure ? Oui, n'est-ce pas, Violette ? Comme on aime avoir un cadre sans tableau ? Non, 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 maman ! S'écria Violette avec passion. Mais je serai heureuse de revoir la tombe de mon père et d'y porter des fleurs fraîches tous les jours. Elle a été trop négligée. Négligée, Violette, comment pouvez-vous dire pareille chose ? La note de Menotti pour le monument funéraire est de plus de 600 livres. Oh, maman, il y a plus d'amour dans un simple bouquet de primes verts cueilli par moi et déposé sur la tombe de mon père que dans tout le marbre et le granit de l'abbaye de Westminster. Ma chère enfant, pour les pauvres gens, les fleurs sauvages sont fort gentilles et témoignent de bons sentiments. Mais les riches doivent avoir des monuments. Rien ne pouvait être trop beau pour votre cher papa, ajouta la veuve en pleurant. Elle était toujours en larmes quand elle parlait de son cher Edward. Et cela, bien qu'elle commençât à se dire que la vie pouvait encore avoir quelque saveur sans lui. « Non, dit Vixen, mais je crois que papa aimera mieux les fleurs. »« Alors, si tout va bien, Miss McCroke, poursuivit Mrs. Tempest, nous partirons à la fin de novembre. Ce serait malheureux de perdre la saison ici. » Vixen étouffa un bâillement désespéré. « Qu'avons-nous besoin de nous inquiéter de la saison ? » dit-elle. « Que nous importe qu'il y ait 2 ou 3 000 personnes de plus dans la ville ? La route royale est un peu moins confortable, voilà tout. Ma chère Violette, la gaieté et les distractions ont du bon à votre âge, » répondit Mrs. Tempest. « Oui, et comme beaucoup de choses qui sont bonnes, c'est très désagréable, » reprit Vixen. Quant au bal, poursuivit Mrs. Tempest en reprenant un sujet se rattachant à un précédent argument. « Je crois vraiment que nous devons y aller, ne serait-ce que pour Violette. N'est-ce pas votre avis, Maria ?» Mrs. Tempest appelait toujours sa gouvernante ainsi quand elle désirait se la concilier. « Violette est certainement d'âge à aller dans le monde, » dit Miss McCroke, après réflexion toutefois. « Mais un grand bal ?»« Si c'est pour moi, n'y allez pas, je vous en prie, » dit vivement Violette. « Je hais jusqu'à l'idée d'un bal, je hais !» Le capitaine Winstanley, » annonça Forbes à la porte du salon. « Il m'a épargné la peine de terminer ma phrase, » murmura Vixen. Le nouveau venu s'approcha de la cheminée en souriant, donna comme un véritable ami la main à Mrs. Tempest, alla vers la fenêtre pour serrer la main de Miss McCroke, puis il revint à Vixen qui lui tendit froidement la sienne, avec une indifférence presque impertinente, tandis qu'Argus relevait la tête et l'accueillait par un sourd grognement. Il serait difficile de décider si l'accueil peu cordial de l'animal lui était dicté par son instinct ou s'il comprenait que ce gentleman déplaisait à sa maîtresse. « À l'instant, je pensais à vous, capitaine Winstanley, » dit la veuve. « Un honneur et un bonheur pour moi, » murmura le capitaine. Mrs. Tempest alla s'asseoir sur sa chaise habituelle près de sa petite table favorite, couverte d'un magnifique service à thé dont elle raffolait, un thé microscopique en vieille porcelaine de Battersea. « Accepterez-vous une tasse de thé ? » demanda-t-elle gracieusement. « Avec grand plaisir. Lorsque j'ai bu de votre thé, il me semble que j'écrirai d'excellents vers pour les journaux du monde élégant. Il me donne de l'inspiration. Addison aurait dû boire de ce thé avant d'écrire un de ses spectateurs. » Mais malheureusement, sa muse ne pouvait se passer de vieux Porto. Si les spectateurs paraissaient de nos jours, je craindrais fort qu'on ne les trouvât bien ridicules, répondit Mrs. Tempest. Parce que les écrivains débraillés ont gâté notre goût pour le bon anglais, interrompit sévèrement Miss McCroke. Peut-être aussi trouverions-nous Addison un peu mince, dit le capitaine. « Je ne vois pas Londres vivant 8 jours de suite sur un régal littéraire comme la vision de Mirza. Nous avons besoin de quelque chose de plus corsé, un peu de scandale sur nos voisins, un article sur les courses, quelques racontars sarcastiques sur la cité, une boutade ou deux sur les hommes que nous connaissons, un article social selon les idées du jour, et par là-dessus un peu d'Addison, mais très peu. » « Notre cher Joseph est trop sincèrement littéraire pour le siècle actuel. »« Quels journaux horribles pullulent maintenant ?» remarqua Miss McCroke. « Il est presque impossible d'y mettre seulement le nez. »« Nous causions du bal au moment où vous êtes arrivés. Je crois réellement que Vixen doit y aller. »« Assurément, » dit le capitaine. Vixen regardait le feu et caressait Argus. Elle ne fit pas au capitaine même l'honneur d'un regard. C'était cependant un homme fait pour être bien vu des femmes. Sans être essentiellement beau, les hommes les plus attrayants ne le sont jamais, il était grand et mince, avec une taille presque aussi fine que celle d'une femme, petites mains, petits pieds, dénotant de la race. Il avait le nez long, le teint mat, des yeux gris perçants sous d'épais sourcils, les cheveux noirs coupés courts, des lèvres minces, des dents blanches, une superbe moustache noire et la tournure d'un militaire, quoiqu'il eût quitté l'armée depuis 3 ans. Actuellement, sa vie était inactive. Vivant comme un gentilhomme avec un fort modique revenu, il n'avait pas de dettes. Homme honorable, oh, assurément, rien à dire contre lui. Sauf que dans certains clubs où l'on jouait un jeu d'enfer, on commentait beaucoup tout bas la mystérieuse faveur que le roi lui accordait à l'écarté. Il y avait là une de ces rumeurs auxquelles ne saurait échapper un homme qui, pareil à certains personnages de Boulouère, ne triche jamais et gagne toujours. En dépit de ces médisances généralement mal fondées, c'est l'écume des conversations mondaines, il faut bien parler de quelque chose. Et si l'on n'y met pas un peu de malice, est-ce assez ennuyeux? Le capitaine Winstanley était un favori du monde, choyé dans les salons où il allait, possédant cette adresse et ce tact qui posent dans la bonne compagnie. On aurait pu dire de lui, comme le Goldschmidt, qu'il ne touchait à rien sans l'embellir. Il est vrai que, généralement, il ne touchait qu'aux petites choses. Mais cela suffisait pour le faire remarquer. Bon cavalier, bon rameur, excellent nageur, assez bon acteur, amateur distingué, il jouait et chantait fort bien, très fort au billard et à tous les jeux d'adresse, il parlait toutes les langues, s'habillait avec un goût parfait, sans la plus petite prétention au dandysme, écrivait avec une verve piquante, se moquant de ses amis d'hier avec un esprit des plus caustiques pour distraire ses amis d'aujourd'hui. On savait qu'il avait collaboré à certains journaux en vogue, et on lui supposait un talent satirique capable de réduire à néant les écrivains les mieux rentés du jour, s'il eût daigné se consacrer à la littérature. Mrs. Tempest et sa fille avaient rencontré le capitaine Winstanley au commencement du printemps passé dans les montagnes de la Suisse. Il connaissait quelques amis de Mrs. Tempest dans le Hampshire, et sans autre recommandation, il avait réussi à gagner son amitié. Vixen se mit en tête, dans sa petite tête de jeune fille obstinée, qu'elle devait le détester. À 17 ans et demi, Vixen avait quantité de partis pris ridicules et de caprices déraisonnables. Dans la tristesse de son isolement, Mrs. Tempest tenait le capitaine pour une relation particulièrement utile. Miss McCrock avait des doutes, mais toutes ses observations ayant été fort mal accueillies, elle résolut prudemment de garder le silence. Le bal en question était un bal de charité donné au pavillon, et il promettait d'être très bien composé. De nobles noms rehaussaient la liste des dames patronesses. Que Vixen parut à ce bal, il n'y avait rien à dire à cela, sauf toutefois cette objection de Miss McCrock, que la fille et l'héritière du baronnet Tempest ne devait pas faire son entrée dans le monde par un bal quasi public, qu'elle ne devait pas paraître officiellement dans la société avant d'avoir été présentée à sa gracieuse souveraine. Mais Mrs. Tempest avait pris à cœur de conduire Vixen à ce bal, c'est-à-dire en réalité d'y aller elle-même. En traversant Paris en septembre, elle était entrée un instant chez Worth, pure curiosité, histoire de se faire une idée des salons du grand homme. Et elle s'était laissée tenter par une toilette de soie noire, garnie de velours, de jais et de passementerie. Elle n'avait que faire de ce costume. Mais il était si joli qu'il n'y avait pas eu moyen de s'en priver, et après une dépense de 100 guinées pour ce chef-d'œuvre, l'idée lui était venue tout naturellement de le faire voir, de savourer le plaisir d'être cotée comme la femme la mieux mise de la société, et d'entendre sur son passage les autres femmes émerveillées se jeter à l'oreille ce nom magique, Worth. Il y eut encore une longue discussion, et finalement il fut décidé que Vixen irait au bal. Elle n'avait pas d'objection positivement sérieuse à faire. Elle eût peut-être aimé y aller si le capitaine Winstanley ne s'en fût occupé, son intervention le lui rendait odieux. Comme vous êtes rude avec le capitaine Winstanley, Violette, lui dit Mrs. Tempest après le départ du visiteur. Croyez-vous, maman ? Répondit Vixen avec insouciance. Je pensais avoir été étonnamment poli avec lui. Si vous saviez comment j'ai envie de le traiter, vous me rendriez justice. Je ne comprends pas la prévention que vous avez contre lui, dit Mrs. Tempest avec humeur. Ce n'est pas de la prévention, maman, c'est de l'instinct, comme chez Argus. Cet homme nous fera bien du mal si nous ne nous tirons pas de ses griffes. C'est honteux, en vérité, s'écria la veuve, pâle de colère. Qu'avez-vous à dire contre lui ? Que pouvez-vous lui reprocher ? Vous ne pouvez pas nier que ce soit un véritable gentleman. Non, maman, il est même un peu trop gentleman. Il fait commerce de ses bonnes façons, et je les trouve beaucoup trop irréprochables à mon gré. Vous préféreriez un jeune homme rude et sauvage, comme Roderick Vaudrey, parlant je ne sais quel argot et sentant l'écurie à une lieue. Je préfère qui est bon et loyal, répondit Vixen. Roderick est un homme, et ne doit pas être mis en parallèle avec votre beau gentleman. Effectivement, la comparaison serait trop à son désavantage, riposta la veuve. Mais il est temps de nous habiller pour le dîner. « Et nous dînons avec les Mortimer !» dit Vixen en bâillant. « Quel ennui !» Elle n'éprouvait aucune sympathie pour les gens qui, en général, plaisaient à son âge. Et la blessure que la mort avait ouverte dans son jeune cœur 2 ans auparavant n'était pas encore assez complètement fermée pour qu'elle prît le moindre plaisir aux vaines conversations et aux divertissements factices d'un dîner fashionable.